Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1. Vous êtes accompagné de David Rocketship. Je suis avec vous pour une petite demi-heure. Une demi-heure à explorer l'inexploré, à flirter avec le paranormal, à tenter d'expliquer l'inexpliqué. Et ce soir, je vous parle de ma grande tante. On y vient dans une petite seconde, mais je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à outretombe.ckrl@gmail.com. Ça, c'est pour nous envoyer un courriel, nous envoyer un message. Vous pouvez aussi nous appeler au 418-640-1586 si vous avez une expérience hors du commun à partager avec les auditeurs de Fréquence d'Outre-Tombe. Et j'ai justement ici un courriel de Jonathan qui nous dit ceci. Dans mon ancien appartement, j'avais souvent l'impression de ne pas être seul. Souvent, je me réveillais dans le milieu de la nuit, en sursaut, et j'avais l'impression que quelqu'un était présent ou que quelqu'un venait de quitter la pièce. Un matin, alors que je cherchais sur mon téléphone dans ma galerie de photos pour envoyer une photo à ma sœur, j'ai trouvé une photo de moi, qui dormait, couché dans mon lit. Puis il y en avait une autre, datée de 2 jours avant, puis une autre, puis une autre. J'habite seul dans mon appartement. Merci à Jonathan de Saint-Émile de nous avoir écrit pour partager ce message. Et avant d'y aller avec notre histoire de cette semaine, j'aimerais prendre un petit 2-3 minutes pour vous parler d'un incident encore inexpliqué aujourd'hui. L'incident est très bien documenté. Vous pouvez faire quelques recherches et retomber là-dessus. C'est la disparition des enfants Sutter. On est en 1945, en Virginie. Une famille de 9 enfants. Leurs parents, George et Jenny Sutter. Lui, George, est de descendance italienne. Il est installé aux États-Unis. Puis, un soir de Noël, un 25 décembre, alors que toute la famille se prépare à aller au lit, le téléphone sonne. Alors Jenny, la mère, va répondre au téléphone. Puis là, elle répond « Oui, allô? » Puis là, il semble pas vraiment y avoir d'interlocuteur. Tout ce qu'elle entend à l'autre bout du fil, c'est un rire. Donc, c'est la seule chose qu'elle peut entendre. Puis ça répond pas, puis ça parle pas, ça raccroche. Donc, elle tient ça mort. Elle s'imagine que c'est peut-être simplement quelqu'un qui s'est trompé de numéro. On sait pas encore aujourd'hui c'est qui a appelé, ni si ça avait... Si ça avait du sens, mais tout ce qu'elle entendait, c'était rire. Puis elle dit avoir entendu des bruits, comme des bruits de verre qui cognaient, là, comme s'il y avait une fête ou un party, ou bref, si on célébrait. Donc, sans plus, elle n'en fait pas de cas. Tout le monde va au lit, la famille Sutter va au lit. Puis, dans le milieu de la nuit, ils se font réveiller par un incendie. Donc, George et Jenny sont à l'étage, au premier étage, en fait, non pas au rez-de-chaussée. Donc, en haut, à l'étage, eux réussissent à réveiller quelques-uns de leurs enfants là, qui sont dans leur chambre. On sait qu'il y en a qui dormaient dans le salon aussi en bas. Donc, ils réussissent à sortir de la maison avec 5 de leurs enfants pendant que le feu fait rage dans la maison. Puis, là, lui sait que ses 4 autres enfants sont en haut, à l'étage, donc il retourne dans la maison pour essayer de monter l'escalier, monter à l'étage, chercher ses enfants. Et là, l'escalier est en train de s'effondrer, il est complètement détruit par les flammes, il peut pas monter par là. Donc il ressort de la maison, puis il sait qu'il y a une échelle sur le côté du garage, donc il court chercher son échelle, il dit « je vais pouvoir monter peut-être par une fenêtre puis aller chercher mes enfants ». L'échelle est plus là, l'échelle est pas là, elle est pas à sa place. Donc, lui, il est camionneur, il est propriétaire de 2 camions. Il se dit, ben, je vais prendre mon camion, je vais reculer, je vais l'approcher de la maison, je vais pouvoir grimper sur le camion puis aller chercher mes enfants à l'étage. Donc, il recule son camion, il saute dans son camion, essaie de le partir, le camion part pas. Puis là, il y a une autre petite camionnette, il dit, ben là, je vais prendre la camionnette. Il embarque dans la camionnette part pas non plus. Donc, il y a rien, vraiment tout allait contre lui. Puis finalement, il a jamais été capable de monter à l'étage pour sauver ses enfants. Puis c'est un petit peu plus tard, quand les pompiers sont finalement arrivés, on parle d'une région rurale de la Virginie en 1945, donc les pompiers, ça leur a pris plusieurs heures en fait avant d'arriver. Puis bon, ils ont réussi à éteindre le feu, mais ils étaient déjà rendus le lendemain matin, on était déjà aux petites heures du matin. Puis quand on a fouillé les cendres, quand on a fouillé les restes, si on veut, là, de la maison, c'est là que le mystère commence. On n'a pas retrouvé le corps des 4 enfants manquants. Donc encore aujourd'hui, on n'est pas capable de s'expliquer où ces 4 enfants sont partis. On a retrouvé un suspect pour l'échelle. Lui dit j'ai volé l'échelle, puis finalement je n'ai pas eu besoin, je l'ai lancé un peu plus loin dans la forêt. C'était vraiment une histoire un peu louche, là, cette histoire d'échelle là disparue. Puis on sait qu'il y a eu quelques témoins qui ont dit, après coup, avoir vu passer les enfants avec 2 autres adultes dans un casse-croûte ou en fait un petit restaurant un peu plus loin sur la route. Puis une autre personne dans un hôtel a dit avoir vu, oui, deux adultes, 2 hommes en fait, avec les 4 enfants qui pouvaient concorder avec la description. Mais bref, le cas des enfants Sodder est encore inexpliqué aujourd'hui. C'est un des beaux cas d'inexpliqué. Il y a plusieurs petits éléments là-dedans. L'appel téléphonique qui est encore mystérieux. Un petit peu avant l'incident, la mère Jenny dit avoir entendu des bruits sur le toit. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par ce genre de cas-là, à suivre et à faire quelques recherches sur la disparition des Sodder. Puis petit élément aussi mystérieux, une 20aine d'années plus tard, en 68 en fait, ils ont reçu une carte postale ou par la poste une photo d'un adulte qui pourrait avoir l'âge d'un de leurs fils qui serait rendu adulte, avec des numéros, des chiffres à l'arrière dont on connaît encore pas aujourd'hui la signification. Donc plusieurs petits éléments vraiment intéressants. Mais pour l'instant, on retourne à notre programme pour la soirée. Je vous raconte l'histoire de ma grande-tante qui, elle, a déjà travaillé dans un hôpital psychiatrique qui était loin d'être rose. Ce soir, je vous raconte une histoire qui hante ma famille depuis longtemps. À Fréquence d'Outre-Tombe, j'ai l'habitude de vous raconter des histoires qu'on m'a racontées ou qui sont arrivées à des amis ou à des amis d'amis, mais cette fois-ci, c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel. Comme je vous le dis, c'est dans ma famille depuis longtemps. Ça commence avec ma grande-tante, en fait la tante de ma mère. Elle, depuis que je la connais, elle a des problèmes psychologiques. On dit qu'elle est schizophrène, qu'elle s'imagine des choses. Elle est donc placée, puis elle fait des crises à l'occasion où elle se réveille dans le milieu de la nuit en criant, puis en hurlant, puis en se débattant. Mais elle n'a pas toujours été comme ça. Quand elle était jeune, elle était infirmière, puis elle a commencé sa carrière dans l'aile psychiatrique de l'hôpital de Saint-Julien, à Saint-Ferdinand, pas trop loin de Thetford Mines. Il y avait une section, en particulier, où à tous les soirs, fallait qu'elle passe avec un agent de sécurité, avec un gardien, pour s'assurer que toutes les personnes dans l'aile avaient ce qu'il fallait pour dormir, qu'il y avait rien que personne n'avait besoin de soins particuliers. Puis cette aile-là, en particulier, était justement dédiée à des criminels dangereux, à des fous qui sont reconnus comme dangereux. Puis c'est pour ça qu'elle y allait toujours avec un agent de sécurité. La plupart étaient dans des cellules barrées sous clé, ou même attachées ou dans des camisoles de force, dans des chambres capitonnées. Juste pour vous donner une idée, il y en a un là-dedans qui avait été arrêté. Lui, son trip, c'était de s'insérer dans les maisons des gens la nuit, puis les observer sans bouger pendant qu'ils dormaient. Puis quand ils se réveillaient, ben là, ils les battaient, puis ils les frappaient à mort, puis leur arrachaient les yeux. Un autre, lui, avait kidnappé presque une 30aine d'enfants. On les a tous retrouvés enterrés dans son sous-sol. Donc, à tous les soirs, elle faisait le tour, s'assurait que chacun était dans sa cellule, était bien attaché, que les portes étaient bel et bien barrées. Elle administrait les médicaments, toujours accompagnée d'un agent de sécurité, évidemment. Puis quittait l'aile, barrait tchouc, derrière eux, puis laissait les patients pour la nuit. Et puis, il y a un soir en particulier où l'agent de sécurité devait s'être déplacé, avait dû se déplacer sur une urgence dans une autre aile. Donc, elle a décidé de faire le tour par elle-même. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle le faisait. Elle connaissait la routine, puis il n'était jamais rien arrivé. Tout le monde était toujours bien attaché. Donc, elle a décidé d'y aller elle-même, jeune infirmière dans le début de la vingtaine. Puis, donc là, elle est entrée dans l'aile avec les clés que, bon, avec les clés que l'agent de sécurité lui avait confiées. Elle a fait le tour. Elle s'est assurée que tout le monde avait ce dont ils avaient besoin. Mais quand elle est venue pour ressortir, elle a échappé le trousseau de clés alors qu'elle était dans le cadre de la porte pour ressortir de l'aile. Puis là, machinalement, elle a fait un pas vers l'arrière. La porte s'est refermée, clouc, mais le trousseau de clés était de l'autre côté. Elle s'est donc retrouvée enfermée dans l'aile des criminels psychopathes dangereux. C'était le début de la nuit, puis là, elle savait qu'elle allait devoir passer la nuit là, dans le couloir, à moins que quelqu'un se rende compte qu'elle était disparue. Puis là, évidemment, tous les patients dans l'aile la voyaient, étaient là-bas, sur le bord de la porte. Bon, eux étaient attachés dans leur cellule ou dans leur salle fermée, mais criaient après, criaient, hurlaient, puis étaient toutes fous là, qu'elle soit juste là, tout près d'elle, tout près d'eux. Elle a dû endurer les cris, les insultes, les hurlements pendant plusieurs heures. Évidemment, il y a eu quelques accalmies pendant la nuit où elle est tout simplement assise à côté dans la porte. Elle était capable de gagner un peu de sommeil. Et puis, dans le milieu de la nuit, c'est ça, elle s'est fait déranger. Je dirais pas réveiller parce qu'elle dormait à peine, mais s'est fait réveiller ou s'est fait déranger par un cri qu'elle aurait pas soupçonné. Il y avait un patient tout au fond qui, lui, était gardé, enchaîné, puis lui avait été accusé de plusieurs actes de pyromanie, donc avait été accusé de mettre le feu à plusieurs reprises. Puis là, elle a entendu ses chaînes commencer à bouger comme s'il se débattait fort, 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 puis là, il s'est mis à crier comme s'il souffrait d'une extrême douleur, puis à hurler, puis elle entendait se débattre, puis les chaînes qui brassent, puis qui se débattent. Au début, elle avait tellement peur, elle s'est juste bouché les oreilles puis elle attendait, tu sais. Puis quand elle a finalement, quand ça s'est calmé, elle est courue au bout du couloir pour voir ce qui s'était passé, pour voir pourquoi il criait comme ça, elle pensait qu'il était simplement en crise. Ben le pauvre, elle l'a retrouvé complètement calciné, complètement brûlé, comme s'il venait d'être brûlé, calciné. Son corps était là, inerte, noir, toujours dans ses chaînes, mais il n'y avait aucune autre trace de brûlure autour de lui, dans sa chambre, dans sa cellule. C'est juste au petit matin, quand le prochain agent de sécurité, qui lui commençait le matin, s'est rendu compte que l'infirmière avait passé la nuit là, que là, elle a raconté ce qui s'est passé, puis elle était toujours déstabilisée, puis depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais été la même. Elle a consulté beaucoup, beaucoup de psychologues. On l'a fait suivre. C'est ma mère qui s'est beaucoup, beaucoup occupée de cette grande tante-là, donc de sa tante, à elle, pendant des années et des années. Puis, le diagnostic n'a jamais été très, très clair. On sait qu'elle faisait des crises, qu'elle se réveillait dans le milieu de la nuit en criant, qu'elle avait des épisodes de furie là, incroyable où elle se bouchait les oreilles et elle se mettait à crier. On a toujours attribué ça à un traumatisme dû à cet événement-là. Mais il y a quelques événements au cours de sa vie qui ont été un petit peu plus, dignes d'intérêt. C'est qu'elle, à l'époque, je vous rappelle qu'elle était dans la jeune vingtaine quand ça est arrivé. C'est donc au début, c'est donc ses parents qui ont continué à s'occuper d'elle. Puis eux, ils avaient un chien, Méo. Puis le chien Méo aimait beaucoup, beaucoup ma grande tante. Jouait souvent avec elle, passait beaucoup de temps avec elle. C'est elle souvent qui allait le promener dehors, tout ça. Puis quelques mois après cet événement-là, où elle est restée enfermée toute la nuit dans l'aile psychiatrique, ils ont retrouvé Mayo au pied de son lit un matin, au pied du lit de ma grande-tante, puis il était complètement brûlé, complètement calciné. Il était comme ça, inerte, juste de la chair grillée sur des os. Donc évidemment, ils ont mis ça sur le dos de ma grande-tante suite à son traumatisme, tout ça. Puis elle se réveillait justement souvent la nuit en criant, en hurlant. Mais le pire dans tout ça est arrivé quelques années après. Quand cette fois-ci, ils avaient laissé ma grande-tante toute seule, toute une journée. Puis ces épisodes étaient vraiment sporadiques. Donc ils n'étaient pas vraiment inquiets, ils semblaient dans une bonne période. Mais quand ils sont revenus à la maison le soir, c'est les voisins qui les ont arrêtés sur le chemin comme ils se rendaient à leur maison. Puis leur ont demandé s'ils avaient vu leur fils. Leur fils de 6 ans était parti jouer dehors, puis il était jamais rentré dîner. Il avait passé une partie de la journée à le chercher. Donc eux ont dit ben non, on a été parti toute la journée. Donc évidemment, ils sont courus voir dans la maison si ma grand-tante qui avait passé la journée là était au courant de quelque chose. Puis quand ils ont rentré dans la maison, ben là c'est là qu'ils ont eu l'horreur de constater que le pauvre Émile avait lui aussi subi le triste sort. Ils l'ont donc retrouvé. Ils ont donc retrouvé son corps calciné, brûlé, dans le milieu du salon, avec justement ma grande-tante dans un coin du salon qui criait, qui hurlait, qui était en état de choc, qui se bouchait les oreilles. À partir de ce moment-là, évidemment, ils l'ont placé. Elle était déjà rendue un petit peu plus vieille. Puis quand elle a commencé à vieillir, plus c'est ma mère qui a commencé à s'occuper d'elle. Donc, elle étant sa nièce, puis était la seule, je dirais, bien placée géographiquement et, mentalement, là, pour pouvoir s'occuper de elle, donc de sa tante, de ma grande-tante. Puis elle lui disait souvent des choses genre « il est là, il me surveille, il est jamais loin ». Évidemment, ma mère a toujours attribué ça au traumatisme qu'elle a vécu quand elle a dû passer une nuit enfermée avec des fous dangereux. « Il est là, il est pas loin, il nous surveille », elle disait toujours ça. Puis un peu plus tard, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années de ça en fait, donc on se projette plusieurs années après ces épisodes-là, ma grand-tante était en fin de vie, puis bon, était placée en soins palliatifs. Puis ma mère l'a accompagnée beaucoup. Et puis dans ces derniers moments, je dirais, c'est là qu'elle a commencé à passer des nuits. Les nuits avec elle étaient avec presque 24 heures sur 24 pendant ces derniers moments. Puis la première nuit qu'elle a passée avec elle, ben ma grand-tante, c'est ça, s'est réveillée en milieu de la nuit en criant, en hurlant. Il est là, puis là, elle se débattait, puis elle se bouchait les oreilles. Puis là, ma mère est entrée dans la chambre en vitesse en essayant de la calmer. Puis elle jurerait qu'elle aurait pu entendre des sons, qu'elle aurait pu entendre comme si quelqu'un d'autre était dans la chambre avec elle, comme si elle entendait des bruits de chaîne, comme si elle entendait quelqu'un crier ou quelqu'un se plaindre. Mais elle était évidemment pas assez sûre de ce qu'elle a entendu pour pouvoir le jurer. Et puis une des dernières nuits que ma mère a pu me raconter, ils étaient dans le milieu de la nuit. C'était le milieu de la nuit. Ma mère dormait dans la pièce à côté de où ma grand-tante, elle, dormait. Puis dans le milieu de la nuit, ma mère s'est réveillée avant d'entendre ma tante crier à ce moment-là. Puis là, elle a vraiment entendu des bruits de chaînes. C'est là qu'elle a compris qu'elles étaient vraiment pas toutes seules dans cette pièce-là. Puis elle a entendu des bruits, des sons de quelqu'un qui se plaignait, qui gémissait. Et puis là, ça s'est mis à crier. Puis la chaleur, elle a pu sentir la chaleur, elle pouvait sentir l'odeur de brûler, de calciner. Il y a clairement quelqu'un qui est en train de brûler. Puis elle pouvait l'entendre se débattre. Les bruits de chaînes, les cris.
Ah!
Puis éventuellement, c'est ma grande-tante qui s'est mise à crier par-dessus. « Il est là! Il est là! Ah! » Ma mère a couru dans la chambre de sa tante pour la rejoindre. Puis elle pouvait voir le pauvre en train de brûler, attaché à ses chaînes, dans le coin de la chambre, à crier, crier. En se débattant, en essayant de se libérer de ses chaînes, qui brûlait, avait du feu jusqu'au plafond, ça sentait le calciner, la chair griller. Puis ma grande-tante complètement en crise à côté, qui se bouche les oreilles, qui essaie de pas regarder, en disant « Il est là, c'est lui, je te le disais, je te l'avais dit! » Et c'est à partir de là que ma pauvre mère a compris que sa pauvre tante avait passé sa vie à supporter cette entité qui la suivait partout, qui la hantait. Ça a été malheureusement la dernière nuit de la triste vie de ma grande-tante. Et je suis obligé de vous dire que depuis ce jour-là, ma pauvre mère n'a plus jamais été la même. Je l'ai plus jamais vue sourire, puis elle se réveillait régulièrement dans le milieu de la nuit, en criant, en hurlant, « Il est là! Il est là! » Alors voilà une confidence familiale que je traîne avec moi depuis des années. Et c'est déjà la fin pour Fréquence d'Outre-Tombe. On se quitte sur une pièce musicale, un groupe punk de Cleveland, en Ohio, qui s'appelle Horror of 59, tiré de l'album The Golden Age of Sin. On écoute Lycanthrope. Vous savez ce que c'est qu'un lycanthrope, hein? Oui, je savais que les auditeurs de Fréquence d'Outre-Tombe le sauraient. Lycanthrope, c'est le terme, je dirais, pseudo-scientifique. Pour un loup-garou, c'était Fréquence d'Outre-Tombe. Bonne fin de soirée, tout le monde!